Toujours est-il que c'est réellement un vampire, qui s'abat sur l'Italie. Je vais vous montrer ce qu'il écrit à Carnot. Dès le 9 mai, il lui dit « Ce que nous avons déjà pris, est incalculable. J'espère que les choses vont bien, pouvant déjà vous envoyer une douzaine de millions. » Une douzaine, vous voyez, il sait très bien, Bonaparte, l'argent qu'il peut envoyer, l'argent qu'il a pris, qu'il peut envoyer au directoire. Mais comme il sait aussi qu'au directoire, un homme comme Barras et un homme comme Carnot ne veulent pas donner trop de détails, sa lettre ne portera que sur cette imprécision. Une douzaine de millions, il a peut-être envoyé 13 ou 14, il y en aura un pour Carnot et un pour Barras. Une douzaine de millions. Monsieur Madelin, qui raconte ça plein d'émerveillement en disant que la campagne d'Italie a été splendide, ajoute que Bonaparte, partout, grand capitaine, se conduisait aussi partout en artiste. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, monsieur Madelin? Mais il veut dire que Bonaparte saisissait partout, même dans les propriétés privées, des tableaux, des statues, des manuscrits anciens. Parce qu'il avait, paraît-il, un goût artistique considérable. En fait, c'était parce que ça représentait de l'argent et qu'il envoyait ça à Paris, on pourrait le vendre. Il faut bien comprendre ce que c'est cette politique de Bonaparte en Italie du Nord. Il arrive comme un libérateur, hein, c'est le vieux truc, puisque l'Italie était possédée par les Autrichiens, il faut faire croire aux populations qu'on vient les libérer. « Peuple d'Italie, dit-il dans sa proclamation, l'armée française arrive pour rompre vos chaînes. C'est l'indépendance que nous vous apportons. » Voilà les phrases officielles. Alors il faut voir ce qu'il dit en dessous. « Ah, j'ai oublié de vous donner une autre proclamation qui est du 20 mai. Nous sommes amis de tous les peuples, mais plus particulièrement de vous, peuple d'Italie, fils des Brutus et des Scipions. » Officiel. Alors, voilà ce qu'il dit dans la correspondance privée. Il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait. Il y a un vocabulaire à attraper. Et il est facile, avec quelques mots talismans comme liberté et indépendance nationale, de se faire écouter des imbéciles. À Talleyrand, je les connais, les Italiens, les fils de Brutus et Scipion. Je les connais, les Italiens, un peuple mou, superstitieux, pantalon et lâche. À Eugène, plus tard, montrez-leur de l'estime, d'autant plus que vous les estimerez moins. Et encore ceci, il faut parler paix et agir guerre. Voilà la technique napoléonienne. D'autre part, ce libérateur qui arrive au nom de la République française est un homme qui s'appuie exclusivement sur les notables, contre les pauvres. À Modène, en décembre 1996, il va le dire « Je suis l'ennemi juré des scélérats, des anarchistes. Je ferai fusiller ceux qui voudraient troubler l'ordre social, ces gens qui sont l'opprobre et le malheur du monde. Ben, » les Italiens n'ont pas tardé à s'apercevoir de ce que c'était que le libérateur français. C'était un conquérant terrifiant. Et comme il y a eu pas mal d'insurrections, vous pensez bien, ces gens qui se trouvent exploités, saignés, se soulèvent. Alors on voit des choses atroces, comme ce qui se passe à Binasco, où Napoléon, enfin Bonaparte, déchaîne son ami Lannes, qui est chargé de raser le village. Comme Pavie, où il y a 10 000 paysans fuyant les exactions françaises qui se réfugient dans la ville. Alors on fait tirer le canon sur les malheureux paysans qui sont dans les rues. Puis après, comme la troupe a demandé, une journée de pillage. Général Bonaparte dit, vous avez la ville, pendant 24 heures, soldats, faites ce que vous voulez. Puis vous avez les épouvantables répressions de Faenza et d'Imola et de Vérone. C'est ce qu'il fait. Il sait très bien qu'il est détesté. Il y a un avis qu'il a fait proclamer, où il dit, tout village où l'on aura sonné le tocsin sera sur le champ anéanti. Et il va écrire au ministre des Affaires étrangères, les collaborationnistes que nous avons trouvés, qu'on ne s'exagère pas leur influence. Si nous leur retirions notre appui militaire, ils seraient tous, en un instant, égorgés. Autre phrase de Bonaparte, sur sa politique italienne, ces peuples nous haïssent profondément. Ce qui est très singulier, ce qu'il faut que je souligne devant vous, c'est que, qu'est-ce qu'il est, Bonaparte, un général? C'est un général de division, et même maintenant un chef d'armée, si vous voulez, mais qui est chargé, par un certain gouvernement qui s'appelle le directoire, de faire la politique du gouvernement. Or, il fait sa politique personnelle. C'est un militaire abusif. C'est quelqu'un qui se permet de prendre des initiatives diplomatiques. Ce qu'un général ne peut que s'interdire. Le directoire avait déjà été extrêmement étonné de voir comment il s'était comporté à l'égard du pape. Le directoire qui détestait le pape avait dit « Vous allez marcher sur Rome et faire sauter le pape ». Bonaparte, lui, il n'agissait pas comme ça. Il s'est dit « Du pape, il a de l'argent ». Alors, j'ai aucune raison de le faire sauter. Il avait d'ailleurs des arrière-pensées là-dessus. Mais je vais lui tirer de l'argent. C'est la même chose que ce qu'il avait fait pour des neutres. Des neutres qui ne sont pas dans le coup, le duc de Modène, le duc de Parme. C'est une politique de gangster, très exactement. Vous savez, il a le pistolet qui le retient devant le nez, il a dit « Si vous ne payez pas, je tire ». Alors Modène donne 2 millions, Parme donne 2 millions, et le pape, parce que le pape, donne 21 millions. Comme ça, on le laisse tranquille. Alors le directoire dit « Mais c'est pas exactement, on dit timidement, c'est pas exactement la politique qu'on vous avait demandé de faire ». Alors Bonaparte répond avec une espèce d'insolence incroyable, et il dit « Les grandes opérations », ça c'est une lettre du 14 mai 96, « Les grandes opérations financières », vous entendez, financières, « Les grandes opérations financières, faites et affaires, les grandes moissons que nous avons à cueillir exigent une unité de pensée diplomatique et financière. » Deux fois le mot financier dans la même lettre. Une unité, parce que le directoire avait dit « Mais nous songeons à vous envoyer un adjoint, enfin, avec plein pouvoir, comme vous, Kellerman. C'est pour ça que Bonaparte se met fou furieux. Comment, Kellerman? Il faudra que je partage avec Kellerman. Seulement, comme c'est un réaliste, et vous le savez, et qu'il se dit que Kellerman est probablement dans le coup et sera furieux de ne pas partager les profits, que fait Bonaparte? Il envoie à Kellerman, personnellement, 1 million, pour que Kellerman ne l'embête pas. Alors, je vous ai dit qu'il faisait une politique personnelle. Cette politique personnelle va vraiment extrêmement loin. Parce que le directoire, il a son idée sur ce qui va se passer en Italie du Nord. Le directoire s'était dit, nous voulons absolument obtenir que les Autrichiens cèdent notre conquête, enfin reconnaissent notre conquête de la rive gauche du Rhin, on l'avait saisie en 1994-1995. Nous leur prenons donc provisoirement le nord de l'Italie, ça fera une monnaie d'échange. Et on leur fera signer un traité par lequel nous leur rendrons l'Italie, mais eux affirmeront, les Autrichiens, que ça y est, que c'est d'accord, que c'est entendu, la rive gauche du Rhin appartient à la France. Ce n'est pas la politique de Bonaparte. Bonaparte est le chef d'une armée d'Italie. Et à ce moment-là, contre l'Autriche, il y a une autre armée qui arrive par l'Allemagne. Une armée commandée par Hoche et par Moreau. Et toute l'épouvante, vous m'entendez bien, toute l'épouvante de Bonaparte, c'est que Hoche et Moreau arrivent avant lui à Vienne et traitent, d'ordre du directoire, et traitent avec l'Autriche à des conditions qui ne seront pas les siennes. Alors c'est là où il est prodigieux, hein, où le pauvre petit directoire est tout tremblant devant un homme aussi victorieux. Il va, de son propre chef, de sa propre autorité, ouvrir des négociations d'armistice avec les Autrichiens. C'est ce qu'il appelle les préliminaires de paix de Léoben le 18 avril 1997. Et il va encore plus loin. Il va envoyer des émissaires à Hoche et à Moreau, qui, eux, à travers l'Allemagne, avancent sur Vienne, pour leur interdire de continuer. Enfin, leur interdire, de quel droit? Il n'est que le général de l'armée française d'Italie. Et tout à coup, il donne des ordres à l'armée française d'Allemagne. Et telle la faiblesse du directoire que le directoire n'ose pas le stopper. Alors, ces malheureux officiers généraux, Hoche et Moreau, s'arrêtent, parce qu'ils croient que les nouvelles qui leur viennent, l'ordre qui leur vient de Bonaparte, c'est un ordre qui est confirmé par le directoire, alors que ce n'est pas vrai. Tout ça parce qu'il veut être le général de la paix, parce que l'opinion publique attend la paix, et qu'il veut, à son goût et à ses conditions, faire la paix avec l'Autriche. Et il va l'obtenir. Et il va créer ces deux républiques, la Cispadane d'abord, la Cisalpine ensuite, qui sont des républiques qu'il veut garder, bien entendu. Soi-disant, ça sera pour le directoire, ça sera des républiques alliées, annexes, ça sera sa petite principauté à lui. Dans les mémoires de Luciano, Lucien, son frère, il y a ceci, l'arrière-pensée de mon frère Napoléon, c'était, si les événements tournaient mal en France, on ne sait pas, d'avoir à lui, en Italie, une retraite possible.